Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Nathalie Amar.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie d'appel sur l'actualité. Vous avez la parole pour les 20 prochaines minutes à propos de cette pandémie de Covid-19 dont l'OMS nous dit et nous répète qu'elle sera longue avec des effets sensibles sur des décennies. On le voit d'ailleurs dans certains pays d'Asie. Aujourd'hui, les Philippines par exemple, l'heure est au reconfinement ce mardi pour 25 millions de personnes. C'est un quart de la population. En Afrique, 957 000 cas selon le décompte du CDC. Ici, le Centre de prévention et de contrôle des maladies de l'Union africaine, on approche le million et c'est un moment charnière, explique la directrice régionale de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il ne faut surtout pas baisser la garde si l'on ne veut pas voir le virus se propager sur le continent. D'autant que plusieurs États, ces jours-ci, ont rouvert leurs frontières aériennes. C'est le cas du Burkina Faso, du Niger, du Togo ou du Tchad. D'autant aussi que le besoin de faire repartir l'économie se fait de plus en plus pressant. Alors on a envie de savoir si vous pratiquez toujours ces gestes barrières, si vous êtes toujours vigilant ou si vous sentez qu'autour de vous et même en vous, la pression se relâche. Nabrika Tchanabe nous écrit de Lomé au Togo depuis la levée du couvre-feu, dit-il. La population ne respecte pas les mesures barrières, la distanciation. Les gens s'embrassent, se serrent la main comme si de rien n'était. Ils ne portent pas le masque. Bonjour Luc.
Bonjour.
Vous êtes en ligne de Johannesburg, Luc, l'Afrique du Sud, où les contaminations ont explosé hein, ces derniers jours. On a dépassé les 500 000 cas. Ce sont aussi des campagnes massives de tests hein, qui ont permis de le savoir. Comment ça se passe pour vous au quotidien, Luc, à Johannesburg?
C'est un peu difficile. La première chose, permettez que je salue d'abord RFI.
Mais je vous en prie.
De m'avoir invité et aux auditeurs. Eh bien, ici, en Afrique du Sud, la situation est chaotique, vraiment chaotique, catastrophique même. Vu que la situation économique, d'abord, a commencé à être très, très, très catastrophique. Le Covid vient encore d'empirer la situation. C'est vraiment difficile. Alors ici, les mesures concernant le confinement, le port de masque, ne facilitent pas la tâche à la population sud-africaine.
Donc pour vous, considérez-vous, Luc, que le port du masque, c'est un obstacle à l'activité économique, c'est ça?
Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Imaginez, par exemple, pour ceux qui sont dans l'informel. Vous arrivez dans un marché, ou bien dans un grand magasin, on vous oblige de porter le masque. Et tous les clients qui ont envie de faire leurs achats, n'ont pas peut-être la possibilité de se procurer ce fameux masque, c'est pas facile.
Donc Luc, vous ne le portez plus? Vous avez arrêté de le porter ou vous ne l'avez peut-être jamais porté?
Ben, là où je vous parle, là, je porte le masque.
D'accord.
Ici, c'est devenu comme une loi. Si la police vous rencontre dans une avenue ou bien dans une ruelle, vous ne portez pas de masque, on vous arrête immédiatement. Mmh. Et vous avez un forfait de plus de 1500 rand. Ça dérange quand même.
Il y a la sanction au bout. Vous dites, Luc, que le port du masque freine la reprise de l'économie dans un contexte de crise, mais est-ce que ce ne serait pas plus rude encore si l'épidémie flambait davantage? Non? Vous ne pensez pas?
Ben vous savez, l'arrivée de ce virus, c'est comme un enfant qui vient de naître. Cet enfant qui naît, il est né pour grandir, pas pour mourir. Quand un scientifique que vous crée un virus, ce n'est pas pour le tuer. Ce virus restera avec nous. Mm-hmm. Ce qui signifie que nous sommes obligés de s'adapter à vivre avec ce virus. Et ce qui a été important, c'est ce confinement qui nous a permis de voir l'allure de l'évolution de ce virus, qu'on a bien suivi sa trajectoire. Et là, on va faire avec.
Eh bien, merci Luc. Merci Luc de nous avoir appelé de Johannesburg. On va passer à un autre appel. Ils sont nombreux ce matin au standard. Merci en tout cas d'avoir témoigné. C'est David qui nous appelle à présent de Goma. Bonjour David.
Bonjour Nathalie, bonjour aux auditeurs de la Radio du Monde.
Alors vous dites qu'à Goma, hein, dans l'est de la RDC, eh bien le port du masque n'est pas vraiment respecté?
En tout cas, n'est pas vraiment respecté. Depuis la levée de l'état d'urgence, tout est redevenu à la normale. Vous avez au moins trois personnes sur cinq qui ne portent pas de masque et le peu de personnes qui restent, s'ils portent un masque, ils le portent mal. C'est souvent sous le nez, soit sous la bouche. Mm-hmm. Hein, donc, on ne sait pas ce qui se passe. Et lorsque vous allez au marché, là, les marchés, les bars, tous les restaurants ont réouvert. Parce que vous voyez la densité de personnes, hein, la densité de personnes dans ces périmètres. Et dans le bus aussi, c'est pareil. Avant, on limitait, il y avait le nombre de places limitées, 8 personnes. Mais maintenant, c'est redevenu à la normale, c'est 16-18 personnes. Donc, carrément, rien n'est respecté ici, s'il faut le dire comme ça.
Alors, c'est vrai qu'on entendait Luc nous parler des sanctions en Afrique du Sud en cas de non-respect des consignes sanitaires. Vous dites, chez vous, à Goma, les autorités ont levé le pied. Il n'y a plus de contrôle, c'est ça?
En tout cas, ils ont levé les pieds. Lorsque nous étions à l'époque de l'état d'urgence, les agents de sécurité de la police, l'armée faisaient des patrouilles, mais depuis que l'état d'urgence a été levé, même le policier même ne porte pas de masque, on ne sait pas ce qui se passe, et c'est vraiment décevant pendant que le président de la République a eu lui-même à dire que l'état d'urgence est levé, mais la maladie est parmi nous, mm-hmm. et chacun prenne les précautions, et bientôt les églises vont reprendre d'ici les 15. Les écoles d'ici les 10, rien n'est contrôlé. Donc, même s'il faut prendre le ratio des personnes qui sont officiellement publiées comme ayant contracté le coronavirus, mm-hmm. moi, je pense que c'est vraiment sous-estimé. Il y a une certaine grippe qui frappe ici à Goma. Moi-même, j'ai eu à tomber malade. J'ai eu à contracter une grippe qui a fait plus de 2 semaines. Mais Dieu merci, je me sens bien. Alors, si hein, à l'échelle de la province ou de la ville, ici, il y a des gens qui ont de la grippe, comme ça, sans même savoir qu'il y a, que c'est le coronavirus, étant donné que les tests sont à grande échelle. Et je crains que la maladie soit vraiment propagée à grande échelle à Goma, mais sans que la population ne puisse le savoir.
Vous évoquiez la reprise de l'école. Bienvenue, qui est à Boutembo, s'inquiète, lui, justement, de ce retour en classe qui est prévu lundi prochain. Il vaudrait mieux, dit-il, proclamer une année blanche au lieu d'exposer tout le monde à ce fléau. Alors, David, je ne sais pas si vous connaissez les actions citoyennes qui sont menées chez vous à Goma. C'est Augustin qui va nous en parler. Bonjour, Augustin. Augustin, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes en ligne avec nous de Goma?
Bonjour, je suis en ligne, je vous entends.
Merci d'être avec nous. Augustin, vous animez, vous faites partie en tout cas d'un collectif qui va sur le terrain pour alerter, pour rappeler à la vigilance, notamment sur le respect des gestes barrières et sur le port du masque. Ce collectif, c'est Goma Actif. Racontez-nous comment vous vous y prenez.
Nous sommes Goma Actif, nous sommes justement un collectif des jeunes de Goma qui ont l'amour de cette ville en commun, et nous avons remarqué qu'il y avait un relâchement de la part de l'autorité compétente ici en RDC, principalement au Nord Kivu. On ne voyait rien du tout, on ne voyait pas de message, on ne voyait pas de campagne vraiment solide. Alors nous, on s'est mis en tête qu'il fallait qu'on protège nos concitoyens, et voilà, on s'est lancé depuis le mois de mars, avant même que la pandémie n'arrive à Goma. On s'est lancé dans des sensibilisations de terrain, dans de la distribution de masques. Et lorsque nous sensibilisons, nous essayons un peu d'expliquer à la population qui reste vraiment réticente face à la COVID-19. On essaie de les expliquer sur quoi la maladie, comment s'en prévenir, comment est-ce qu'on peut contracter ce virus, parce que tout ça sont des questions qui restent vides et qui restent vraiment à la merci des rumeurs ici chez nous à Goma. Mmh. Et voilà, c'est un peu dans ça que nous sommes.
Et c'est une action évidemment totalement bénévole. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle porte ses fruits à votre niveau? Évidemment, vous n'êtes pas une armée de volontaires pour faire campagne dans toute la RDC, mais est-ce qu'à votre niveau, chez les gens avec qui vous parlez, vous avez l'impression que vos arguments portent ?
À notre niveau, oui, parce que à chaque fois que nous faisons les transmissions hebdomadairement tous les samedis, et à chaque fois que nous sommes sur terrain, nous sentons que les gens ont besoin d'apprendre, les gens ont besoin de comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est vrai ou c'est vrai ou c'est faux? Le virus est là, il n'est pas là. Comment est-ce qu'on peut se prévenir? Est-ce que le masque peut apporter de maladies? Comment on doit bien porter le masque? Comment on doit bien se prévenir? Comment il faut vivre avec ce virus? Mmh. On sent que les gens, ils sont vraiment réceptifs quand nous sommes sur le terrain, parce que nous sommes des jeunes militants, des mouvements citoyens, nous sommes des jeunes humanitaires, des jeunes journalistes, des jeunes artistes, bref, des fils de Goma qui sont bien connus, et quand nous allons vers la population, ils nous croient facilement. Mmh. Et c'est difficile, oui, mais quand même, on essaie de convaincre certains, oui.
Merci Augustin d'avoir été avec nous en ligne de Goma ce matin. On va quitter la RDC pour la Côte d'Ivoire. Bonjour Edgar.
Oui, bonjour aussi.
Vous êtes en ligne d'Abidjan. Vous nous dites, vous, que les mesures barrières sont très respectées dans la capitale économique ivoirienne?
Oui, les mesures barrières jusqu'à présent sont respectées dans l'ensemble. Le port de masque, la distanciation, Seulement que dans les quartiers populaires comme à Djamé, là, on va vers la catastrophe. Parce que c'est un quartier vraiment populaire où la journée, des milliers de personnes, des millions de personnes déambulent, mais sans port de masque.
Mmh. Vous êtes dans quel quartier, Edgar, à Abidjan?
Moi, je suis à Cocody et ici, vraiment, les mesures barrières sont très respectées.
Mmh. Alors, il y a Aubin, hein, juste pour information, qui, lui, nous écrit aussi d'Abidjan. Il ne précise pas de quel quartier, hein, mais il dit exactement le contraire de ce que vous nous dites. Il nous dit « Les mesures barrières sont obligatoires, mais le contrôle est tellement absent qu'on s'étonne même, en certains lieux, de voir quelqu'un avec un masque de protection. » Il y a donc différents visages, si on peut dire, à Abidjan, du point de vue de la prévention.
Tout à fait. Il y a différents visages à Abidjan. Comme je le dis, il y a les quartiers comme Cocody et autres, il n'y a pas de problème. Mais les quartiers populaires, ça, c'est très difficile, très, très, très difficile de respecter ces mesures-là. Il y a un manque même de volonté de la part de la population. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Mmh. Parce que là, je précise bien, à jamais, on va vers la catastrophe. Et les autorités sont au courant. Mais malheureusement, comme l'autre l'a dit, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Et je crois que les autorités doivent être vraiment fermes au niveau de ces quartiers pour qu'on puisse quand même circonscrire la maladie.
Ce que vous disiez, Edgar, au standard aussi, c'est que en théorie, les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Dans la réalité, ça n'est pas respecté.
Pas du tout. C'est pas respecté. Depuis que nous avons perdu notre premier ministre, alors là, ce qui s'est passé au palais des sports. Donc, tout le monde, maintenant, ne respecte plus ces mesures barrières. On se retrouve à 100, 200, au-delà même de 300 personnes. Et là, c'est vraiment malheureux.
La Côte d'Ivoire, on le rappelle, on va pas le donner le bilan. Je vous invite à aller voir le site donc du CDC, hein, le Centre de prévention des maladies de l'Union africaine. La Côte d'Ivoire, selon ce recensement du CDC, 16 182 cas et 102 victimes. Merci Edgar de nous avoir appelé d'Abidjan. Bonjour Jean-Lucien.
Oui, bonjour.
Alors vous nous appelez de Yaoundé et vous dites la psychose est passée, les gens ont repris le courant de leur vie normale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de gestes barrières chez vous au Cameroun.
Ah oui, je vais vous dire une chose. Vous savez, le jour où le gouvernement a pris la décision de lever le couvre-feu qui était en vigueur tous les soirs, il y a eu une très grande clameur et dans le subconscient des gens, c'est que la maladie était terminée. Et donc, depuis ce jour-là, la vie a repris comme avant. Et puis, je vais vous dire ici, beaucoup de gens ne croyaient pas au Covid-19, à cette maladie-là. Parce qu'il y a des maladies, jusqu'à présent, qui font beaucoup plus de mal. Le palu reste là. Hein. Je pense que le palu reste la première cause de mortalité ici chez nous. Et finalement, les gens ont plus peur du palu que du Covid-19. Et autre chose, c'est que les gens ont choisi, parce que vous savez, les mesures que le gouvernement avait prises étaient vraiment très, très difficiles. Et les gens, pour la plupart, avaient fait un choix, c'est-à-dire entre mourir de faim ou mourir de Covid. Les gens préféraient mourir de Covid. Ils ont fait abstraction de la maladie.
Ouais. Jean-Lucien, comment est-ce que vous percevez, vous, ces alertes de l'OMS? Il y en a eu plusieurs, hein, mais la toute dernière consiste à dire, attention, c'est vrai, l'Afrique est moins touchée que les autres continents pour l'instant, mais on approche du million de cas de contamination et il faut faire attention que ça ne se propage pas et que la vigilance ne se relâche pas. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre d'appel?
Si vous voulez, ces appels-là sont contre, en fait, les alertes de l'OMS sont plutôt contre-productives.
Pour quelle raison ?
Dans la mesure où les premières prévisions n'ont pas été celles que l'OMS a déjà annoncé beaucoup de choses qui ne se sont pas réalisées. Et donc, du coup, les gens pensent que ce que l'OMS dit reste pour l'OMS et que c'est valable pour les pays occidentaux.
Peut-être,
et que chez nous, ça sera pas valable parce que dans la mesure où rien de tout cela ne s'est produit.
Peut-être que l'OMS a trop parlé, c'est ce que vous nous dites en fait, qu'il aurait fallu attendre.
Les gens pensent que oui, parce que l'OMS a produit une hécatombe, c'était. Vous voyez finalement que rien de tout ça n'est arrivé. Et donc les gens pensent que c'est la maladie des pays riches et que ce qu'on voit là-bas chez vous n'arrivera jamais chez nous. Dans la mesure où, depuis le mois de mars, on n'a jamais atteint un pic. Et puis, pour la plupart des personnes ici, parce qu'on en parle souvent, si le gouvernement avait, dès les premiers instants, fermé les frontières, c'est-à-dire arrêté l'arrivée des vols venant de l'Europe, je pense qu'on n'aurait jamais parlé de Covid en Afrique et principalement au Cameroun.
Merci Jean-Lucien de nous avoir appelé de Yaoundé. On va se rendre à Libreville à présent avec vous François, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, vous parlez en ce qui concerne le Gabon de gestion calamiteuse de cette crise du Covid, expliquez-nous.
Oui, je crois que c'est un peu le sentiment de tout le monde. La gestion a été calamiteuse, je crois que c'est l'adjectif. On a pris plein de mesures qui, comme on dit, le remède a été pire que le mal. On a fermé les bars, les restaurants, la plupart des domiciles se sont transformés en bars. Je ne sais pas qui est le plus à blâmer. Si mon revenu principal, je le tire de mon bar et que vous me le fermez pendant 3 mois, bah écoutez, je fais quoi? Quelqu'un l'a dit précédemment, entre mourir de faim et mourir de Covid, bah, les gens ont choisi de mourir de Covid.
Mais est-ce que pour autant, parce que les cas sont peut-être moins nombreux aujourd'hui en Afrique, le continent est protégé ad vitam aeternam? Ça, en réalité, les scientifiques ne le savent pas. Et on sait, en revanche, par exemple au Gabon, qu'on a découvert 168 cas positifs sur un site pétrolier dans le Moyen Ogoué. On en parlait ce matin sur notre antenne. Il y a des clusters, il y a des cas de contamination quand même, toujours aujourd'hui.
Oui, bien sûr, mais pourquoi? Ça prouve à suffisance que les mesures qui ont été prises, ça a été du copier-coller. Ça a été du copier-coller. Je crois que, pas que les mesures soient mauvaises, mais certaines n'étaient pas nécessairement adaptées. Je vous prends un exemple. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore le couvre-feu. Moi, je veux bien, mais à quoi est-ce qu'il sert? Quand ceux-mêmes qui l'appliquent, on voit bien qu'ils n'ont plus la rigueur qu'il y avait il y a 3 mois. Parce que les agents même qui sont sur le terrain sont fatigués. Aujourd'hui, vous passez à un contrôle, les agents sont à moins de 1 mètre, ils n'ont pas le masque, vous n'en avez pas, et ils vous laissent passer. À trop tirer sur la corde, elle se casse. On a créé une psychose, et puis psychologiquement, la barrière est tombée. Les gens se disent, écoutez, le gouvernement, il prend ses mesures. De fait que la population est déconfinée. Vous avez des gens qui jouent, qui pratiquent des sports collectifs au vu aussi de tout le monde en bordure de route. Donc ça sert à rien de venir dire au journal la pratique du sport est interdite, si les gens le font et qu'il n'y a rien de fait.
Merci de votre témoignage, François, en ligne de Libreville. Biran, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Dakar et vous êtes inquiet, vous dites la situation risque d'exploser au retour des Sénégalais de leur province vers Dakar pour la fête de la Tabaski.
Oui, absolument. Jusqu'à présent, les zones des régions étaient plus ou moins épargnées par cette pandémie. Le centre de la pandémie se situait entre Dakar et la région de Djourbel. Malheureusement, avec la fête du mouton qui vient de se passer, l'essentiel de la population dakaroise s'est rué dans les régions d'origine. Avec le déconfinement qu'il y a eu, on craint effectivement une explosion dans les jours à venir après le retour de ces derniers à Dakar.
Et voilà, on surveillera effectivement la progression de l'épidémie au Sénégal. 10 344 cas pour l'instant et 209 victimes. Je voudrais qu'on fasse un tout petit détour par Madagascar, l'île de Nosibé. Bonjour Djamel.
Bonjour Nathalie.
Et que nous dites-vous ce matin? Les mesures barrières toujours en vigueur chez vous? On sait que Madagascar est l'un des points d'inquiétude en ce qui concerne ce Covid-19 et que récemment le ministère de la Santé a appelé à la rescousse des infirmiers, des médecins bénévoles.
Alors à Madagascar, contrairement à ce que ont dit mes amis africains tout à l'heure, moi je suis plutôt serein parce que déjà selon les derniers chiffres reçus hier, il y a 75% du taux de guérison, donc pour l'instant ça va. Et puis sur les consignes à respecter, je trouve que les Malagasy respectent bien les restrictions parce que déjà il y a les distanciations barrières, il y a aussi le port du masque. Et ça en grande partie à cause de la police municipale qui fait un travail remarquable. Donc ça c'est vraiment quelque chose de bien pour Madagascar. Et selon les statistiques données par le gouvernement, les chiffres devraient commencer à baisser à partir de mi-août. Et peut-être que les frontières seront ouvertes à partir d'octobre. Donc pour moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas vraiment l'épidémie, mais c'est plutôt l'économie.